Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Peu de poèmes, peu de prose sur les Pyrénées qui restent mystérieuses et sauvages et ne se découvrent qu'à ceux qui les méritent et qui les aiment. Elles sont belles, altières et vivantes. Et leur vie, nous la découvrons grâce à des recueils de photos et de textes que nous présente Jean-Paul Abadie. Après les Hautes-Pyrénées de mes grands-parents, voici le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents, paru aux éditions Cairn. Jean-Paul Abadie, bonjour.
Bonjour Monique, bonjour. Alors, auditeur de Radio Présence.
Voilà, auditeur de Radio Présence, mais également producteur de Radio Présence, puisque vous venez de Radio Lourdes, Radio Présence Lourdes. Alors, bienvenue chez nous. Alors, vous êtes né en Bigorre et vous avez travaillé aux travaux des champs avec vos grands-parents. Et puis après, vous avez fait des études d'agronomie à Toulouse. Et pour cela, tenez, je vous rappelle qu'il y a eu dans l'émission Candide et les experts un professeur de l'école d'agriculture de Purpan qui est venu.
Moi, j'étais à Hausseville, à l'école nationale de formation agronomique.
D'accord, voilà. Avec justement, alors donc, une connaissance du terrain, lui comme vous. Voilà. Donc, et vous avez enseigné en chimie organique et physique à Alger. Puis ensuite, vous avez fait toute votre carrière dans l'expertise en environnement. Ça, alors, vous étiez déjà en avance sur notre époque.
Très tôt, même très jeune, j'étais très, très, très sensible à l'environnement. Mes parents se demandaient pourquoi. Parce que dans
vous étiez un visionnaire.
Non, je ne dirais pas. Il y a des gens comme ça qui sont toujours un peu en avance sur leur époque. Mmh. Vous le savez bien. On n'est pas parfaitement adapté à l'époque. On est un peu en avance.
Alors certains sont un peu en retard.
D'autres sont en retard. Bon, c'est leur problème. Mais on nous considère un peu comme originaux, si l'on peut dire. Mais
oui.
Bon.
Oui. Alors, vous avez collaboré par des textes, des photographies à de nombreuses revues, périodiques, quotidiens en France et en Argentine. Petite astérisque, pourquoi en Argentine ?
En Argentine, parce que j'ai créé, bon, avec des amis, l'association Bigorre Argentine-Uruguay, qui s'intéressait aux émigrants partis de la Bigorre, mais également des Pyrénées, vers le Rio de la Plata, l'Argentine et l'Uruguay, évidemment. Mmh. Association qui se donné pour but de rechercher les descendants de ces familles émigrées de chez nous au 19e et début du 20e siècle et de les mettre en contact avec leurs familles restées ici ou leurs familles parties là-bas.
Voilà.
Donc c'était un intérêt que moi-même, ayant fait des recherches généalogiques pour mon arbre généalogique, évidemment. Mais à l'époque,
vous avez trouvé des ancêtres qui sont partis
oui,
là-bas.
Oui, mais l'Internet n'existait pas à l'époque. J'ai mis une quinzaine ou à 20 ans de recherche à retrouver la famille que je croyais émigrée en Amérique du Nord, en Louisiane.
En fait, ils étaient en Argentine.
Ils étaient en Argentine. Actuellement, c'est très facile avec Internet de retrouver, mais à l'époque, c'était tout par courrier.
Oui.
Les ambassades et les consulats ne s'intéressent pas à vos recherches, évidemment. Mmh. Ils ont autre chose à faire. Bon, voilà.
Voilà le pourquoi de la chose.
Oui,
d'accord.
Ma famille est en Argentine, à 350 km au nord de Buenos Aires et dans la ville de Colón Entre Ríos.
D'accord. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des familles, des parents de Rabassins, de Gaillac, et même de l'autre côté, du côté des Alpes, de Barcelonnette, qui sont partis en Argentine aussi.
Hein. Oui,
il y avait une forte immigration.
Il y a une forte immigration à partir de la moitié du 19e siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres.
D'accord.
Ouais.
Alors, donc, vous avez collaboré à des revues telles Cheval Magazine, Grand Reportage, Évasion, Atlas, la revue que de bord d'Air France, la Dépêche du Midi, évidemment, la Nouvelle République des Pyrénées, etc., etc. Et beaucoup de photos dans votre ouvrage, des photos en noir et blanc, souvent magnifiques, vraiment. D'où viennent-elles ?
Alors, ces photos, ce ne sont pas de ma production. Elles ne sont pas de ma production. Ce sont des photos qui ont été réalisées par les studios Alix de Bagnères de Bigorre. En fait, la famille Alix, pendant 4 générations, a pris des clichés sur les Pyrénées, sur la vie des Pyrénées, mais également sur par des contrats avec EDF sur les chantiers de haute montagne. Donc, toutes ces photographies ont été donnés récemment, dans les années 2000, par Jean et Jeanne et Salé, les derniers héritiers, les derniers,
de la famille Alix,
voilà, qui ont donné gratuitement, pour 0 centime, à la ville de Bagnères de Bigorre, tous leurs clichés photographiques qui s'élèvent à environ 600 000 documents.
Oula.
Voilà. C'est 600 000 documents.
C'est un beau cadeau là, qu'ils font à la ville.
Oui,
hein.
C'est une perle,
ah oui,
effectivement.
Ah oui.
Et qui n'est
ah,
pas...
Ne me dites pas que vous avez trié 600 000 documents.
Non, mais j'en ai consulté pas mal. Parce que d'accord, ces documents-là sont sous forme de négatifs, de plaques.
Ouais. Plaques, eh oui, comme on faisait.
Voilà, fin du 19e, début du 20e, jusque dans les années 50. Mmh. Hein, puisque les mariages étaient encore pris sur plaques photographiques. Ouais. Vous devez vous en souvenir.
Pas vous vraiment.
Je m'excuse.
Non, je ne sais pas souvenir.
Voilà. Et donc, tous ces documents sont entreposés sur des étagères dans une ambiance climatisée, dans les anciens bâtiments du Pic du Midi de Bigorre, à Bagnères de Bigorre, donc près du Vallon du Salut.
D'accord.
Et il y a là deux techniciens qui sont chargés de numériser l'ensemble de l'œuvre et qui, lorsque vous partez en recherche... comme
vous
chercheur,
aide.
Voilà, manipule même les plaques,
les
négatifs que l'on observe sur des plaques, des tables lumineuses. Évidemment.
Alors Jean-Paul Abadie, vous avez choisi la période de 1930 à 1970. Exactement. Pourquoi ?
Alors, tout démarre par une proposition de l'éditeur Jean-Luc Kerrebel des éditions Kern, qui avait demander à Jean-Paul Rey, qui est un journaliste de la Dépêche du Midi, qui travaillait beaucoup dans le rugby, puis après qui s'est beaucoup intéressé au cyclisme, de justement travailler sur cette période 1930-1970, à partir de photos, de documents photographiques Alix. Et comme Jean-Paul Rey n'a pas accepter le travail, trouver qu'il y avait trop de travail de recherche, trop de travail de rédaction, de légende, etc. Ce travail a été proposé à Edmond Duplan, le chanteur bien connu bigourdan, qui lui également, vu le travail qu'il avait à réaliser, a décliné cette offre. Et un jour, avec Jean-Paul Rey, nous escaladions le Tourmalet, il me dit, tu sais, l'éditeur Kern cherche quelqu'un, on m'a proposé de rédiger un ouvrage. Et comme moi, je ne peux pas le faire, il y a trop de travail. Et puis, ça a été proposé à Edmond Duplan, qui lui non plus...
Mais vous, le travail ne vous a pas fait peur.
Ben, Jean-Paul Rey me dit, je ne vois qu'une personne sur les Hautes-Pyrénées. Vous savez, la pommade dans le dos là, que l'on vous passe. Et voilà
et
comment est parti
vous, voilà.
le travail de recherche de documents photographiques et de rédaction.
Alors, vous avez eu... vous avez eu plusieurs... parrainage, si j'ose dire. Lui, Armari, a fait une entrée, une sorte d'entrée en matière, où il rappelle les valeurs du sport,
oui.
Évidemment, hein, le dépassement de soi, le respect des règles.
Exactement.
Et je crois qu'il faudrait qu'on y revienne beaucoup plus. Le goût de l'effort, oui. Le fait d'accepter ses échecs, de reconnaître les défaites. Il met l'accent sur la différence entre les Pyrénées et les Alpes, il me semble, mais bon... Il y a une préface. Oui,
Louis Armari est un grand rugbyman international,
oui.
Qui a longtemps joué en équipe de France en première ligne. Voilà. Il est actuellement président de l'Office départemental des sports,
d'accord.
65.
D'accord. Alors, ouais. Isabelle Mire, que les anciens comme nous connaissent, parce que c'était la petite pyrénéenne très très bonne, excellente,
et
qui a
voilà.
Ramené des médailles dans les années 60, et qui a donné une impulsion au ski pyrénéen, avec toute sa famille d'ailleurs.
Voilà. Hein. Ils ont déclenché le démarrage du sport de compétition dans les Pyrénées.
Oui. Et puis, il y a un nom avant-propos. Alors là, je ne sais plus par qui note quand même que les photos qui ont été faites, il faut reconnaître que ce sont de très bonnes photos. Et pourtant, il n'y avait pas les mêmes... Les appareils n'avaient pas les mêmes performances que maintenant.
N'avaient aucune qualité de celle qu'ont les appareils de maintenant.
Oui.
Voilà.
Voilà.
Ce sont des appareils qui étaient manuels. Hein, et il fallait calculer soi-même les vitesses, les ouvertures. Et c'était vraiment du professionnalisme pour les gens qui
bien
pratiquaient
sûr.
La photographie. Il n'y avait pas d'assistance électronique,
tout à fait.
Etc.
On ne pouvait pas revenir. Oui. Et alors, vous rappelez un petit peu l'histoire et en racontant, on parle donc du sport dans les Pyrénées, dans toute la région, que la société était principalement rurale, comme dans toute la France d'ailleurs.
Absolument.
Et que on ne parlait pas de jeu et surtout pas de sport, parce que, en fait, tout le monde faisait du sport sans le savoir.
Tout le monde faisait du sport tous les jours, surtout dans les milieux agricoles, industriels, ouvriers. Les gens pratiquaient des activités physiques permanentes.
Déjà, ils marchaient beaucoup.
On marchait énormément, il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport et personne n'avait de voiture individuelle, elle n'existait pas. Enfin, il y en avait pour les gens de la haute société, mais pour les gens du monde rural...
Au mieux, c'était le vélo.
C'était d'avoir un vélo, c'était vraiment un exploit, d'abord. Oui. Et donc... tous ces gens qui ont vécu cette époque-là jusque dans les années 60 ont beaucoup marché, ont beaucoup travaillé physiquement parce que le travail était principalement manuel.
Oui, tout
se faisait dans les exploitations agricoles, tout se faisait à la main. Il y avait un début de mécanisation, mais il n'y avait pas de motorisation. Les tracteurs agricoles sont arrivés dans les années 65.
Oui, et je pense qu'ensuite, ils souhaitaient se reposer peut-être.
Oui, c'est pour ça qu'il n'avait pas envie d'aller faire du sport. Et puis, de toute façon, il ne le connaissait pas. Hein, il ne connaissait pas les pratiques sportives. Quelques-uns ont réussi à quand même s'intéresser au sport. Et c'est de là qu'est née toute cette élite de sport pyrénéen.
Voilà. Vous écrivez, les jeux traditionnels pour les milieux populaires adultes ne sont pratiqués au XIXe siècle que lors d'événements festifs et religieux. Et malgré les fortes réticences populaires à son égard, seule l'adoption progressive du système scolaire entraînera pour les enfants le lent développement des jeux sportifs, tout comme la lutte pour les campagnes hygiénistes, la pacification des mœurs et contre la violence. Et à ce titre, on peut situer au XIXe siècle le réel essor des jeux traditionnels dans les méthodes éducatives françaises et du sport pour l'éducation anglaise. Ça, c'est encore...
Oui, c'est tout à fait une différence d'approche du milieu sportif. Le milieu français et le milieu anglais sont tout à fait différents dans l'approche du sport.
En fait, au départ, on parlait plus de jeux que de sport.
On parlait d'activité physique et de jeux. Ces jeux qui étaient pratiqués lorsque on se réunissait pour des fêtes ou pour des fêtes familiales ou des fêtes villageoises. Enfin, voilà.
Et oui, alors je trouve que ce qui est émouvant, c'est qu'on voit que les personnes s'amusent avec peu de choses. Ça ne demandait pas des moyens ultra sophistiqués, ultra chers, comme on voit maintenant. Non, hein, c'était les courses en sac, la course avec la cuillère et l'œuf dans la cuillère, enfin des choses comme ça.
Oui, le sport de base, le sport pratiqué historiquement dans la Bigorre, mais également dans le Béarn et dans le bas des Landes, c'était la quille de neuf. Il fallait peu d'installations. Un quillet, ça fait 10 mètres sur 10 mètres. On a 9 quilles.
C'est-à-dire que c'est la pétanque, mais version sud-ouest.
Voilà, version sud. La pétanque en a peut-être dérivé, on ne sait pas.
Oui, voilà, on va dire ça.
Voilà, mais ça demandait peu d'installations puisque ça se pratiquait en extérieur et donc il n'y avait pas besoin de stades et de choses compliquées comme on a de nos jours.
Oui. Alors, évidemment, il y a différentes méthodes. Il y a la méthode française, la méthode anglaise, on en a dit un mot.
Oui.
Et on voit l'apparition de clubs, la création de clubs. Ce n'était pas encore les associations.
Non, les sports, lorsqu'ils ont commencé à se pratiquer, c'était vraiment par adhésion à un club. C'était le club des boulistes, enfin, le club des...
Le jockey club.
Le jockey club, voilà, oui, absolument. Oui.
Alors, est-ce que ça, comme il y a les clubs pour les bains de mer, est-ce que ça signifie pas aussi une certaine, entre guillemets, aristocratie?
Oui, parce que tous ces sports dont je parle dans cet ouvrage, sont des sports qui ont été pratiqués dès le départ par une élite, par une aristocratie. C'était une autre barrière entre le sport, l'activité physique, et le peuple paysan ou industriel, ouvrier. Voilà, c'est uniquement l'élite. Alors on peut mettre là... Pour notre monde rural, les médecins, les pharmaciens, voilà, ce sont eux qui, dès le départ, ont commencé à pratiquer, par exemple, le ski.
Oui, c'est ça. Remarquez, en vous lisant, je me disais, c'est quand même drôle. À une époque, souvenez-vous, il y avait les cours de tennis, mais personne, c'était réservé. Bon, ensuite, les cours de tennis se sont multipliés.
Oui, oui.
Maintenant, ils sont en partie désertés.
Abandonnés.
Maintenant, c'est le golf.
Oui.
Bon, et le golf commence à se démocratiser. Oui. Donc, on va passer à autre chose, probablement.
Ce sont des effets de mode qui percutent notre vie civile. Et les gens se lancent là-dedans, tête baissée. Il y a eu le ski, quand même, à un moment donné. Bon, ça continue, vraiment.
Oui, là, le ski, oui.
Mais il y a eu un fort développement dans les années 70 du ski, avec les développement des stations de ski. Voilà, il y a quand même des effets de mode.
Il faut reconnaître quand même, nous avons parlé d'Isabelle Mire et qu'il y a une période vraiment qui a été formidable pour le ski, qui a lancé le ski.
Oui, avec tout l'équipement de montagne, parce que nos stations se sont créées. Bon, il y avait Barège comme vieille station d'origine, et il y avait Luchon, mais qui était fréquenté quand même par une élite.
Oui, Super Bagnères, c'était quand même...
Quand vous voyez l'hôtel
magnifique.
Là-haut, c'était quand même toute une élite et qui pratiquait ces sports-là. Et bon, c'est vrai que Saint-Lary a démocratisé, a contribué à démocratiser notamment le ski.
Oui. Alors, il y avait aussi cette idée de servir l'hygiène et l'efficacité physique. C'était l'époque de l'industrialisation, donc c'est quand même lié ça, non ?
Oui, c'est lié parce que dans les milieux, même ruraux, il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de contraintes.
Ah oui. Il paraît qu'il y a beaucoup d'allergies dans les milieux ruraux.
À l'époque, il devait y en avoir peut-être.
On n'en parlait pas à l'époque.
Exactement. Comme dans le milieu industriel, vous avez bien vu les ateliers ou les fonderies où les ouvriers étaient dans des conditions. Donc le sport, effectivement, comme dans les mines du Nord, où le cyclisme a eu...
Beaucoup de succès.
À cause justement de ce contraste entre la dureté...
Du travail en sous-sol.
Et la possibilité de pouvoir s'aérer et de vivre autrement que dans ces conditions d'air confiné et pollué, en fait.
Dites-moi, Jean-Paul Abadie, dans votre région, il y a beaucoup de stations thermales. Est-ce que le sport s'était lié à cela ? Il y avait un rapport ou pas ?
Alors, les stations thermales ont effectivement contribué à la diffusion du sport, puisque pour occuper les curistes, qui étaient quand même aussi venus un peu en élite.
Oui, à l'époque, ce n'était pas pris en charge par la sécurité sociale.
Exactement, il fallait quand même avoir des moyens pour aller en cure. Donc, le sport était un moyen de les occuper, d'occuper ces curistes. Alors, soit par la pratique, mais surtout aussi par des démonstrations. Et on voit dans mon ouvrage la pratique de la pétanque, de la pelote basque, du polo, parce que quand même le polo...
Ça, c'est le sport. Non seulement il faut... C'est du golf à cheval.
Du golf à cheval, il faut quand même avoir les moyens d'entretenir un cheval.
Oui, exactement.
Et d'avoir un terrain, d'avoir des gens qui puissent... Bon, c'était l'armée qui était quand même... avec les haras nationaux qui mettaient leurs chevaux pour montrer leurs possibilités et développer la race, effectivement.
Quand vous parlez de haras nationaux, il y a du côté de chez vous, là-bas, il y a un haras qui est très connu.
Le haras national de Tarbes.
Qui est très important.
Oui, qui était un haras créé pour la remonte de l'armée napoléonienne. Mm-hmm. Voilà, et qui avait développé à l'époque toute une production chevaline sur la Bigorre.
Et alors maintenant, les chevaux qui vont défiler au 14 juillet, ils viennent de chez vous ?
Non, ils ne viennent pas de chez nous, non. Ils sont là-haut à Paris, il y a un haras sur place.
Alors, revenons donc au sport. Donc, on voit l'évolution. Il y a un statut des sports qui se met en place. Il y a des règles, il y a
des clubs, des fédérations qui se mettent en place. Oui.
Des entraîneurs. Alors, je ne sais pas il n'y a pas d'école d'entraîneurs, mais bon,
non,
ça se passe.
Ça se passait sur le tas,
bien sûr. Les
entraîneurs étaient des pratiquants qui, lorsqu'ils n'arrivaient plus à pratiquer ou lorsque leur temps avait été fait, ils se mettaient à devenir entraîneurs de tout sport d'ailleurs.
Oui.
Ça se passe un peu quand même actuellement aussi comme ça.
Oui.
Quand vous voyez, bon, sans en citer aucun, Zidane, bon, il a quand même une carrière.
Oui, voilà, il n'y a pas de diplôme d'entraîneur, mais enfin, il
surtout pas à l'époque, il n'y a pas de diplôme d'entraîneur.
Vous dites quand même qu'on assiste à une forme de démocratisation. Et vous citez quelque chose de très intéressant, je trouve, ce sont les patronages.
Voilà.
Et c'est vrai que quand on parle, excusez-moi, on parle autour de soi, de ce que faisaient les enfants le jeudi, à l'époque, ouais. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Beaucoup allaient au patronage.
Alors, ceux qui n'étaient pas à la campagne allaient au patronage. Parce que quand on était à la campagne, moi-même...
Ils étaient réquisitionnés, là, voilà. Les enfants étaient réquisitionnés.
Nous n'avions pas de problème pour trouver des occupations.
Oui, c'était dans les villes, oui, vous avez raison. Voilà. Ouais.
Alors, c'était des patronages aussi bien laïques que religieux, hein, d'ailleurs.
Oui.
C'est eux qui ont contribué également à la diffusion du sport dans notre société, à l'intégration des gamins et à la découverte de milieux qu'ils n'avaient pas la possibilité de connaître dans leur environnement familial. Les patronages, on voit dans mon ouvrage des sœurs en cornette qui amènent des gamins faire de la luge.
Oui, il y a des photos extraordinaires.
Voilà,
exactement. Oui, parce qu'en
j'étais
fait,
très
c'était...
heureux de trouver ces photos-là.
Oui, oui. C'était on voit que des clubs sportifs confessionnels ou pas, ou laïcs, hein, tout
exactement.
Simplement. Mais on voit aussi qu'il y avait un fort ancrage de l'Église catholique là-dedans.
Oui, on voit dans une piscine à Bagnères de Bigorre des jeunes prêtres qui entraînent des gamins à la natation.
Oui, aussi. Oui, oui. Alors, évidemment, vous évoquez les premiers Jeux olympiques remis en scène par Pierre de Coubertin.
Oui.
Et vous mentionnez quelque chose qui m'a fait tilt. Vous dites qu'il y avait du tir au canon.
Ah oui, alors dans les premiers Jeux olympiques, il y a eu des choses fabuleuses, oui. Et on tirait, d'abord, il y avait du tir sur pigeons réels. Des vrais pigeons. Il y avait également du tir au canon. Non, il y avait eu des épreuves fabuleuses.
Alors là, la société protectrice des animaux, maintenant, oui.
Et puis, vous voyez, le tir au canon.
Oui, le tir au canon, oui, c'était pas du tout pacifique.
Non.
Bon, Jean-Paul Abadie...
C'était pas tellement dans l'esprit de
Coubertin.
Enfin, je pense pas.
nous faisons une première pause musicale et nous reprenons ensuite. Le soliste ténor que vous allez entendre est tout simplement l'auteur Jean-Paul Abadie, qui appartient à la chorale du Lavedan.
Du Lavedan.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, je suis en compagnie de Jean-Paul Abadie et nous parlons d'un très bel ouvrage de textes et de photos qui illustrent les textes, bien sûr. Un ouvrage intitulé « Le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents » paru aux éditions Kern. Et je précise que les photos sont de la collection Alix, qui avait rassemblé quantité de documents photographiques sur une époque là qui s'étend entre 1930 et 1970. Alors, Jean-Paul Abadie, on pourrait parler maintenant des jeux. En fait, vous mentionnez que les jeux sont apparus surtout avec l'instruction, l'école obligatoire.
Oui, dans l'ouvrage, effectivement, je parle des jeux de l'enfance, tous les jeux, hein, et qui permettent, qui nous permettent à nous, lorsque nous sommes gamins, de nous socialiser,
oui,
d'accord, et également de comprendre notre place dans l'environnement, dans l'espace. Donc ces jeux de gamins dérivent plus tard vers les sports, et vers les sports amateurs et les sports professionnels. Et puis hélas, avec les dérives que cela peut entraîner avec le sport
oui,
professionnel.
Qu'on ne pouvait pas envisager, parce que, en fait, jouer permet à l'enfant de pratiquer des exercices physiques, de construire sa stature physique,
voilà.
Je vous cite, os et muscles et aide au développement de la condition physique, lancer, faire rouler, etc. Voilà. Mais il y a aussi la prise de décision, la notion d'impulsion, de calcul mathématique, d'occupation spatiale, de résolution immédiate des problèmes de situation. Et au-delà du rôle de divertissement, les jouets, comme les jeux, stimulent la créativité, contribuent au développement cognitif, ils aident instinctivement l'enfant à acquérir et déployer des aptitudes mentales et physiques qui sont utiles plus tard dans sa vie d'adulte, voire de sportif.
Vous comprenez pourquoi j'ai un peu écrit cela ?
Oui.
Avec notre jeunesse actuelle,
eh ben
qui
voilà.
est collée aux écrans,
ouais,
et
ouais.
à qui on ne donne pas le temps de s'ennuyer.
Ouais. Ouais.
Je pense que pour l'enfant... Quand on est enfant, on a besoin de s'ennuyer.
Mm.
Et on a besoin d'activités physiques qui nous permettent de
Tout
nous développer dans tous les sens et qui après entraîneront le développement intellectuel, c'est
ouais.
évident.
Ouais.
Voilà. C'est un
oui,
peu dans ce sens aussi
que
j'ai écrit
ouais.
ce texte-là.
C'est vrai qu'on se demande maintenant ce que font les enfants le mercredi. On sait que les parents travaillent, mais que font les enfants? Tous ne sont pas dans des clubs de sport,
hélas.
On s'en fout. Oui, voilà.
C'est... Alors qu'ils ont besoin de se dépenser physiquement.
Et pas seulement.
Oui, mais pas seulement, mais de connaître leurs limites physiques et de se défouler. Donc les sports sont quand même un moyen de,
oui.
de canaliser, de conduire cette vitalité que l'on a dès la plus petite enfance.
Oui, et en même temps d'être dans un groupe, de respecter
et
les règles,
respecter
etc.
Les règles, de respecter autrui, ce respect dont on parle tant et qui existe peu.
Et d'arriver à dépasser aussi ses propres limites.
Surmonter.
Vous notez surmonter, oui.
oui.
Une première idée de sélection aussi. Hein,
oui,
là,
tout,
bon.
oui.
Alors oui, maintenant,
oui.
si on parle de sélection, certains vont sauter au plafond.
Oui.
Mais en même temps, de pouvoir se situer et de pouvoir progresser, c'est une bonne chose.
Et d'admettre que l'on est moins fort que...
dans une matière et meilleur dans une autre,
voilà,
par exemple.
Et ne pas en faire des gloires ou ne pas en faire
voilà.
des problèmes à n'en plus finir,
oui.
Qui dérivent vers la psychologie...
Tout à fait.
Je n'ouvre pas tout ce grand
chapitre-là.
Mais bon.
Alors, vous parlez des congés payés en 36. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans le milieu rural?
Dans le milieu
pas
rural,
vraiment.
Je pense que ça n'a rien changé du tout. Parce que moi qui suis né dans les années 50, j'ai bien vu pendant toute ma jeunesse que ce milieu rural n'avait pas de vacances. On a commencé à prendre des vacances... dans le milieu rural, dans les années peut-être 70. Mais avant...
Il n'y avait pas de vacances.
Il n'y avait pas de vacances. Alors de 36 à 70, franchement, il n'y a pas eu une grande évolution dans le milieu rural. Industriel, oui, dans le milieu ouvrier, puisque les périodes de vacances des établissements permettaient au personnel d'aller dans des centres.
Voilà.
Et dans ces centres de vacances, on pratiquait du sport, notamment.
Alors, il y a des photos extraordinaires, mais je ne vais pas les détailler, mais il y en a une qui m'a fait rire. En 42, on voit des drapeaux tricolores qui flottent au vent, et on est sous le régime de Vichy, et le 1er mai est déclaré fête du travail et de la concorde nationale. Et on voit des jeunes avec... en formation militaire et qui ont à la main des bâtons comme des épées, etc. Enfin, bon, ça fait partie
de l'anecdote. Ça, c'était l'esprit de Vichy,
de l'époque.
Oui, où il fallait créer des jeunes physiquement développés pour peut-être aller prendre quelques balles à les trancher.
Oui, exactement. Bon. Très, peut-être trop encadrés pour le coup.
Oui, exactement.
Et en 42, on disait il faut être fort pour mieux servir. Il y avait des slogans, bâtir une France saine, disciplinée et solidaire. Disciplinée et solidaire, hein, c'est
servir,
ce que vous dites.
Servir le maréchal.
Et voilà.
C'est vrai qu'on voit dans ces jeux-là, j'ai été très heureux de découvrir, parce que là, ça a été une découverte lorsque je les ai découverts au fond Alix, découvrir ces photos de gamins en 42. On voit même des filles qui jouent au basket, et c'est quand même... un côté très très positif parce que chez nous en Bigorre où maintenant le TGB est en très haute position, il y avait quand même des prédispositions dans les jeunes bigourdans pour aller jouer au basket.
Alors, vous dites dans votre ouvrage que au départ le sport c'était quand même d'inspiration religieuse.
Oui. Parfaitement. Il y a eu au départ une inspiration pour mystique, disons. Hein.
Oui.
Voilà. Et c'était une concrétisation de l'esprit mystique dans l'esprit...
De maîtriser ses impulsions, son corps.
De conduire, de canaliser, et voilà.
Voilà. Alors, bon, on peut parler, on va voir plusieurs sortes de sports qui se pratiquaient en Bigorre particulièrement. L'athlétisme, bon, vous notez qu'en fait, c'était pratiqué un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir.
Tout à fait. Voilà. Mais on voyait qu'il n'y avait pas de barrières comme il y a actuellement entre les disciplines sportives. On voit dans l'une de mes photos Jean Dupuis, que l'on connaît bien dans le milieu rugbystique, c'est à la page 42, Pipiou, comme il a longtemps été appelé, qui a longtemps pratiqué l'athlétisme, tout comme Jeannot Gachassin, ils ont été des athlètes qui ont pratiqué la course à pied et qui ont quand même pratiqué le rugby à très très haut niveau.
On parlera du rugby, mais vous dites qu'en fait, ça attire pas trop les jeunes Pyrénéens.
Non, l'athlétisme n'a jamais attiré les grandes foules. Hein, même,
oui,
bon,
c'est
c'était
vrai.
Un moyen de démonstration que l'on avait, notamment lors des fêtes patronales. Je me souviens à Lannemezan où les grandes réunions pour la Saint-Jean attiraient sur le stade des démonstrations d'athlétisme notamment.
Alors là, pour en terminer avec l'athlétisme, on passe un peu vite, mais il y a d'autres sports qui nous attendent. Des préjugés sur le sport féminin, je lis. Pas de course de fond, pas de saut en longueur, en hauteur, en vue des records, pas de lutte ni boxe, pas d'équitation, tout exercice qui s'accompagne de chocs, secousses et dangereux pour l'organe utérin.
Et oui,
vraiment, oui, bah oui, il y avait des préjugés comme ça.
Il y avait des préjugés, oui, qui ont été longs à tomber quand même. Hein,
mais oui, je pense.
Oui.
Alors, en revanche, alors il y a eu des courses automobiles et je sais que dans le commun, il y avait en particulier près de Saint-Gaudens, il y avait un circuit.
À Saint-Gaudens même. Ce sport automobile dérive également des stations thermales. Puisque à l'origine, c'était une course qui parcourait les stations thermales, Luchon, Barbazan, etc.
Le circuit des stations thermales.
Voilà, c'était le circuit des stations thermales qui, finalement, au cours des années, a fini par être un circuit de course automobile avec des pilotes nationaux.
Chevronnés,
oui.
Et de belles voitures.
Oui, et le circuit tel qu'il était lorsqu'il a... était à son maximum, correspondait à un circuit de F1 maintenant. On avait la chance d'avoir ici, en Comminges et Bigorre, un circuit de niveau international.
Oui.
On ne s'en rend pas compte.
Le Grand Prix de France des voitures de sport.
Oui, le Grand Prix de France des voitures de sport. Oui.
Ouais.
Avec des pilotes.
Oui, oui.
très 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 chevronné et très très connu, avec des voitures qui faisaient rêver.
Oui. Ce que j'ai appris, c'est que Jacques Chancel organisait un rallye, le rallye des Gaves.
Oui, le rallye des Gaves qui
réunit... Jacques Chancel qui habitait près de chez vous, non ?
Oui, oui, qui habitait dans la vallée d'Argelès. Et bon, qui était plus souvent à Paris qu'Argelès.
Mais qui connaissait beaucoup de monde et attirait beaucoup de monde, donc,
oui,
probablement.
Surtout de nombreux VIP.
Voilà.
Il était très fréquenté. Et puis, il y avait d'autres petits rallyes, comme le rallye Boulmiche à Lannemezan, qui attirait un monde...
Moins huppé,
auquel j'ai participé, avec Isabelle Mire, d'ailleurs.
Ah, voilà. D'accord. Voilà. Alors, bon, le cyclisme. Alors, le cyclisme, évidemment, quand le Tour de France arrive dans les Pyrénées, et gloire aussi aux caméramans de la télé, oui, qui peuvent faire découvrir la beauté des Pyrénées. Bon, là, vous avez beaucoup de photos. Et vous notez, ça m'a fait sourire, en 1857, il y a eu un exploit à Paris-Lannemezan.
Oui, Alcide Bouzigues, un pharmacien qui était pharmacien à Paris, a fait une randonnée. Il est rentré de Paris à vélo jusqu'à Lannemezan.
Voilà, et c'est
un 7 jours. C'est un précurseur. Et puis, il fallait voir dans les conditions.
Oui,
et puis il avait même porté un revolver, quand même, parce que les routes étaient quand même pas tellement sûres.
Ah oui, aussi. Et puis, quand même, bon, les vélos d'époque, c'était quand même pas... Ils n'avaient pas la légèreté de ceux d'aujourd'hui.
Et ils n'avaient pas d'itinéraire préconçu avec des réservations d'étapes, etc.
Alors, saluons cet exploit.
Oui, tout à fait. Alcide Bouzigues. Il faut s'en souvenir.
Vous parlez également d'un René Abadie. Je me suis posé la question, c'est un parent ?
Non, pas du tout. René Abadie a été un cycliste de grande qualité qui aurait pu faire une très très belle carrière. Il est originaire, bon, il est né à La Brocaire, mais il vivait en Bigorre. Il a été champion olympique par équipe à Melbourne, vous voyez. Non, c'est un grand cycliste qui courait chez Mercier avec Raymond Poulidor.
Alors évidemment, pendant la guerre, ce vélo est devenu un mode de déplacement.
Oui,
même dans ma famille, je sais que c'était le mode de déplacement.
Il a eu une grande gloire, le cyclisme, à cette époque-là.
Oui.
Pratiqué par tout le monde.
Oui, oui, oui.
Enfin, tous ceux qui avaient un vélo et qui pouvaient trouver des pneus, du caoutchouc pour rouler.
Exactement.
C'était le gros problème.
Alors, et puis petit à petit, il n'y a plus d'équipe nationale, mais des équipes de marque. Ça, c'est un peu dommage.
Et voilà, c'est la perversion du système que j'évoque ensuite dans mes textes. Et oui, on est passé déjà dans le sport au mercantilisme et à l'arrivée de l'argent dans le sport. Hein. Bon, voilà.
Et voilà, exactement. Et ça, donc, on le voit dans tous les domaines du sport.
Dans tous les domaines du sport.
Alors, évidemment, vous...
Que nous regrettons un peu.
Eh, oui, certainement. Ouais. Vous parlez de ce Tour de France mythique, la caravane publicitaire. Ça perdure encore.
Oui,
les festivités qui l'accompagnent. Je sais que dans tous les villages des Pyrénées, là où passe ce Tour de France, il y a des distributions de casquettes. À un moment, j'avais un grand nombre de casquettes.
et autres... objets publicitaires.
Là aussi, j'étais amusée parce que je ne savais pas que Gemignani ou Coppi avaient des surnoms. Gemignani, le grand fusil. Coppi, le pieux.
Le pieux, oui, parce qu'il était très croyant. Et lorsque le Tour de France passait ici en Bigorre, il ne pouvait pas venir sans se rendre à Lourdes et se consacrer devant la grotte.
Ah, voilà, ouais. D'accord.
Ouais. D'accord. D'ailleurs, cette année, le Tour de France...
Passe par Lourdes.
On aura une étape qui partira de Lourdes.
D'accord.
Mais je pense de l'esplanade de la basilique.
D'accord.
Comme il est parti à l'époque. Oui. Voilà.
Jean-Paul Abadie, je vous propose une seconde pause musicale et nous terminerons par d'autres sports encore.
Avec plaisir.
Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Abadie, venu nous parler de son ouvrage « Le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents », ouvrage de texte qu'il a lui-même écrit et de photos offertes à la ville de Bagnères-de-Bigorre par la famille, les héritiers, Alix,
oui. Hein, c'est bien Jean, ça Jean et Jeanne et Salé, voilà. Donc le surnom est... Alix, la raison commerciale, disons, très connue sous le nom Alix, effectivement. Jean et Jeanne donc, ont donné à la ville de Bagnères-de-Bigorre l'ensemble de leurs documents photographiques.
Voilà, alors le sport du temps de mes grands-parents, le sport dans les Pyrénées. Parlons justement du pyrénéisme. Et j'aimerais, Jean-Paul Abadie, que vous nous lisiez un passage concernant justement le pyrénéisme.
Alors, le pyrénéisme... On attribue à Henri Béraldi, vers 1898, la paternité du terme pyrénéisme. Dans son ouvrage « 100 ans aux Pyrénées », on peut aussi concevoir que 100 ans plus tôt, Raymond de Carbonnière, conseiller du cardinal de Rohan en exil à Barèges, soit l'inventeur du pyrénéisme. Il monte au pic du Midi de Bigorre en 1787, s'escrime au Mont Perdu de 1796 à 1802, il publiera en 1789 ses observations faites dans les Pyrénées. Preuve qu'elles étaient encore là et qu'on les pratiquait, même si la langue française nous privait du terme approprié. D'ailleurs, ce sont des guides locaux, Lorenz, Mouret et un contrebandier espagnol, d'authentiques pyrénéistes, pyrénéens, donc qui le mènent sur les voies du sommet. D'aucuns, sans titre, sans gloire et sans battage, n'avaient-ils pas depuis longtemps posé le pied sur ces sommets des Pyrénées considérés encore vierges? De plus, dans la langue vernaculaire, les Pyrénéens erratiques avaient depuis fort longtemps baptisé chaque sommet, chaque port, chaque croupe, chaque crête, chaque massif, d'où une certaine redondance des noms dans chaque vallée. En fait, le pyrénéisme historique a obtenu ses lettres d'or au XIXe siècle avec quantité de personnages insolites venus d'ailleurs en cure thermale ou en excursion.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même parfois des noms que l'on retrouve dans les Pyrénées qui se répètent.
D'une vallée sur l'autre.
D'une vallée sur l'autre.
Les pics sont désignés des fois par des noms différents. Et par contre, on retrouve le même nom pour un même pic avec des termes de patois, bien différents.
En vous lisant, je me disais que les Pyrénées, à l'époque, vous parlez de Madame de Maintenon qui se promenait en chaise à porteur en 1775. À vrai dire, c'était comme si elle était allée en Afrique.
Oui, elle venait là comme si on venait dans les tribus indigènes.
Oui, en chaise à porteur.
Chez les sauvages,
oui,
on dirait.
Chaise
à porteur. Oui, parce qu'il faut savoir que même pour rejoindre Bagnères et le Pays Toy, l'Usse Saint-Sauveur, on ne pouvait pas y accéder par le bas des gorges de l'Usse. On était obligé, depuis Pierrefitte ou depuis Lourdes, on était obligé de passer par Bagnères et de prendre le col du Tourmalet pour descendre dans la vallée de Barèges.
Oui.
C'est pour ça que cette dame était véhiculée dans une chaise à porteurs. Je ne vous dis pas le mal des porteurs qui devaient la véhiculer par là.
Oui. Et vous dites d'ailleurs qu'en 1864, il y a eu enfin une route, mais elle était en terre, évidemment.
Oui. Il y a d'ailleurs une photographie où l'on voit justement les charrettes à la page... justement 130, où l'on voit les charrettes qui traversent traversent le
chemin
le col du Tourmalet.
Caillouteux, malaisé.
Oui. Alors, à 2115 mètres.
Oui, vous vous rendez compte.
Voilà.
Et puis, très vite, chaque sportif a éprouvé la soif des premières pour chaque sommet.
C'était...
Alors, on ne va pas énumérer. Et vous parlez également, ça m'a intéressé aussi, de spéléologue, parce qu'on a entendu parler de Normère et Elisabeth Castoret, qui ont fait des recherches dans les grottes en altitude, y compris à Gavarnie.
Oui, sur les grottes glacées du massif de Gavarnie. Oui, Normère Castoret... représente pour les spéléologues quand même la personne qui a propagé, alors je ne veux pas dire vulgarisé parce que j'aime pas tellement ce terme-là, mais qui a propagé l'amour de la spéléologie dans notre société. Moi je me rappelle lorsque j'étais enfant, j'étais fasciné par les histoires que racontaient venu de Norbert Castoret lorsqu'il faisait des conférences, je n'en aurais jamais raté aucune, vous voyez.
Oui, bien sûr. C'était un monde inconnu qui petit à petit...
Mystérieux.
Alors, j'ai noté, là, dans mes notes, une photo extraordinaire où on voit des randonneurs. Alors... quasiment les dames en robe, jupe, petit chapeau cloche, très élégante, quasiment des talons hauts, et sur un chemin qui n'est fait que de cailloux. Et je me dis, mais vraiment.
Eh bien oui.
Oui, c'est ainsi, l'appel de la montagne.
Et il n'y avait pas de tenue en textile synthétique. Donc on allait, même en tenue de ville, c'était une sortie, sortie en tenue de ville.
Voilà, alors bon, il y a beaucoup de photos passionnantes, il y a une très belle photo de la brèche de Roland, mais voilà, le temps ne nous permet pas de nous appesantir. Le ski, évidemment, là il y a une photo, on voit Isabelle Mir, et on voit que c'est une discipline plus tardive que dans les Alpes.
Oui.
Ça se répand à partir de 1907. Alors, après la seconde, vous notez une chose, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de remonte-pente.
Et d'ailleurs, la photo de couverture de l'ouvrage « Le sport dans les Pyrénées » de mes grands-parents vous montre une remontée à pied.
C'était lors
d'une compétition organisée dans la station qui sera plus tard la Mongie, mais qui ne s'appelle pas encore la Mongie. C'est une montée d'hommes qui traînent un chariot avec des piquets
moins,
de slalom.
Au moins, on peut dire qu'ils avaient les muscles chauds.
Ah, ils étaient chauds pour descendre ensuite à ski. Bon, ce n'était
Vous notez aussi que le ski alpin a été plus tardif et qu'il y avait, en fait, c'était essentiellement la course de fond et le saut en tremplin.
Oui, les compétitions n'étaient pas le slalom, c'est géant, le slalom spécial, etc. Les compétitions de base étaient surtout du ski de fond. Ça se pratiquait avec des skis en bois, en frêne, que l'on se fabriquait ou que le...
Que l'on fartait quand même.
Oui, quand même, que le menuisier du coin vous fabriquait. Et on faisait également du saut au tremplin. Alors au départ, c'était du tremplin sur neige. Enfin, le tremplin était constitué de neige, et après on a quand même constitué...
À Barège en particulier.
Voilà, où il y a eu un grand tremplin.
Et vous évoquez nos grandes championnes pyrénéennes, Isabelle Mire et les sœurs Laforgue, Brit et Ingrid, oui.
Tout à fait.
Alors pour terminer, voilà, ça va trop vite, il nous reste très peu de temps, il y a Christophe qui me fait signe, là, qui, on va parler un mot du rugby, et évidemment...
On ne peut pas passer sans parler du rugby.
Non, mais non, c'est notre sport, là.
C'est un beau palmarès. Notre sauce.
Mais exactement. Alors, un beau palmarès pour les Pyrénéens, évidemment.
Bien sûr.
Et vous parlez, vous évoquez la beauté du rugby amateur, avec une certaine nostalgie.
Tout à fait. Le rugby que l'on pratiquait dans nos villages, dans nos villes, mais avec un esprit bon de clocher, effectivement. Mais bon, c'était l'amour du rugby, du vrai rugby. Le rugby où n'était pas rentré ni la publicité, ni l'argent, ni les marques.
On voulait le bouclier de Brennus, mais pour la gloire.
Pour la gloire, voilà. Il n'y avait pas d'argent, mais on avait la gloire.
Et si vous permettez, je terminerai, vous avez noté cette définition de Paul Boisvenel. C'est à la fois de la poésie, de la belle prose, de la sensibilité et de la raison, de la fantaisie et de l'intelligence, le lieu où, au-delà des batailles, s'affirment l'estime et la fraternité.
Parfaitement.
C'est une belle définition.
Je pense que c'est un bon résumé de l'esprit que devrait avoir ce sport-là.
En tout cas, Jean-Paul Abadie, un grand merci pour votre ouvrage. Très intéressant, à la fois évocateur d'un passé, mais en même temps qui montre l'évolution aussi à travers les années. Et puis peut-être que vous ferez un livre sur le futur. Du sport pyrénéen.
Merci Monique de tous ces compliments. Mais bon, j'espère que ce n'est pas un ouvrage passéiste, c'est un ouvrage qui doit permettre de nous comprendre et de comprendre d'où on vient.
Voilà, il faut avoir une mémoire.
Voilà, il nous faut la mémoire pour aller en avant.
Merci d'avoir été notre mémoire. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de l'ouvrage de Jean-Paul Abadie, Le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents, paru aux éditions Kern. Au revoir.
Au revoir. Thank you.